France Musique.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau. France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le van de France Musique. Voici le premier des trois caprices en blanc et noir, l'un des suprêmes chefs-d'œuvre de Claude Debussy pour commencer cette émission qui est le fruit de sa dernière grande période d'activité créatrice qui avait eu lieu pendant l'été 1915 alors qu'il était en villégiature à Pourville sur les bords de la Manche. Ces trois pièces, nous dit Debussy, veulent tirer leur couleur, leur émotion du simple piano tel les gris de Velázquez. La première est à jouer avec emportement, comme l'indique le compositeur. Elle est également précédée d'un exergue tiré du livret de Jules Barbier et Michel Carré pour le Roméo et Juliette de Gounod, un exergue qui nous dit ceci, qui reste à sa place et ne danse pas de quelque disgrâce, fait l'aveu tout bas.
Thank you.
bien c'est l'époque où Debussy revendiquait fièrement le titre de musicien français. On vient d'entendre le premier de ses trois caprices intitulé En blanc et noir, interprété avec une virtuosité prodigieuse par Martha Argerich et Steven Kovacevic à deux pianos. Voici à présent un extrait d'une intégrale inégalée des symphonies de Chostakovitch. On la doit au chef d'orchestre Kirill Kondrachin qui les a toutes enregistrées avec le Philharmonique de Moscou en 10 ans, entre 1965 et 1975. Je vous propose quelques pages de la toute première symphonie de Chostakovitch. Il va l'écrire à 19 ans, il est encore étudiant au conservatoire. Il présente cette œuvre pour son examen de fin d'études. Sa pièce est créée en mai 1926, elle va rencontrer un succès tout à fait phénoménal. Thank you. Allegretto suivi d'un Allegro non troppo, c'était tout simplement le premier mouvement de la première symphonie en fa mineur de Shostakovitch. J'ai éprouvé un immense plaisir à l'écoute de votre symphonie, avait déclaré Alban Berg. Je la trouve tout simplement superbe, surtout le premier mouvement. Cela sonne vraiment de façon merveilleuse et je vous félicite du fond du cœur pour votre succès. Les mots donc du compositeur Alban Berg à Shostakovitch après avoir entendu sa première symphonie jouée à Vienne en novembre 1928. Nous écoutions à l'instant la version de l'Orchestre Philharmonique de Moscou dirigée par Kirill Kondrachine, enregistré en 1974. La musique d'Antoine Forqueray, tout de suite dans le van de France Musique. Ce compositeur né à Paris en septembre 1672, il est mort 71 ans plus tard à Mantes-la-Jolie. Il appartient à une grande lignée de musiciens. Son père était organiste, son fils Jean-Baptiste était violiste comme lui. Et c'est à l'âge de 10 ans qu'Antoine Forqueray va avoir la chance de jouer de la basse de violon devant Louis XIV, qui sera très impressionné par son talent, à tel point qu'il demandera à ce qu'on enseigne immédiatement la viole au jeune prodige Antoine Forqueray. La belle monstre est une pièce tirée de la première suite en ré mineur pour viol d'Antoine Forqueray, transcrite pour le clavecin par son fils Jean-Baptiste et interprétée à l'instant par Gustave Léonard au clavecin.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
vous propose un nouvel enregistrement du chef d'orchestre Kirill Kondrachin, né à Moscou en 1914. À 17 ans, il était entré au conservatoire de Moscou pour étudier la direction d'orchestre et puis il avait commencé à diriger petit à petit. À 22 ans, en 1938, il s'était inscrit à un concours de direction où il avait reçu un diplôme d'honneur. Là, un critique soviétique avait déclaré « J'ai été particulièrement impressionné par la facilité avec laquelle ce jeune chef fait travailler l'orchestre, évitant tout verbiage. Kondrachin se fait mieux comprendre par la précision de sa gestique que par toute parole superflue », sont les mots de ce critique qui nous prouvent à quel point Kirill Kondrachin avait un bras fait pour la direction d'orchestre. Pourtant, il demeure assez méconnu aujourd'hui, ce chef d'orchestre, sans doute parce qu'il est mort jeune. Il venait tout juste de fêter ses 67 ans, le 6 mars 1981. Il est mort le lendemain, le 7 mars 1981, alors qu'il venait aussi d'être nommé à la tête de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise pour succéder à Raphaël Kubelik. Il aurait dû prendre ses fonctions à l'automne 1981 et on va l'entendre justement tout de suite diriger cet orchestre qui le réclamait. Le voici dans l'ouverture de la Grande Pâque russe de Nikolaï Rimski-Korsakov. C'était la troisième des grandes œuvres pour orchestre que Rimsky-Korsakov avait composée coup sur coup en 1887 et 1888 après son Capriccio espagnol et son Scheherazade. Il avait écrit son ouverture de la grande Pâque russe que nous venons d'entendre interprétée par l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Kirill Kondrachin. Le monde de la lune, c'est un opéra de Joseph Haydn qui raconte l'histoire du professeur Eclitico. Officieusement, il est astronome. Officieusement, c'est un imposteur. Eclitico affirme qu'à travers son télescope, il peut observer les habitants de la Lune nue. Alors, lorsqu'il propose à d'autres passionnés des astres de regarder dans sa lunette, ils assistent effectivement à ce spectacle, mais il s'agit en vérité de marionnettes vers lesquelles les complices d'Eclitico détournent le télescope.
Thank you.
C'est l'ouverture du monde de la lune, Il mondo della luna, dernier opéra bouffe de Joseph Haydn, composé en 1777 pour le mariage du fils de son protecteur, le prince Esterhazy. Nous écoutions la version de l'orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par l'un des spécialistes de la musique du compositeur, le chef d'orchestre Antal Dorati.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Le concerto de la Renaissance pour Sergueï Rachmaninov, c'est son deuxième concerto pour piano, évidemment celui qui lui a permis de renouer avec la composition après l'échec de la création de sa première symphonie au mois de mars 1897. Rachmaninov s'était réfugié dans un escalier, les mains sur les oreilles. Il avait confié plus tard avoir vécu l'heure la plus sombre de sa vie, alors qu'Alexandre Glazounov était sous et qu'il massacrait la partition de sa première symphonie. Pendant les trois années qui ont suivi, Rachmaninov n'a pas pu écrire une note et petit à petit, à force de séances d'hypnose et de psychothérapie, il va recommencer à composer. C'est grâce à l'insistance de son médecin qu'il a écrit ce deuxième concerto pour piano.
Thank you.
premier mouvement du deuxième concerto pour piano en do mineur de Sergueï Rachmaninov, interprété par le légendaire Earl Wilde en soliste, un pianiste mort en 2010 à l'âge vénérable de 95 ans. Il avait d'ailleurs donné des concerts et enregistré jusqu'à la fin de sa vie. Il l'interprétait avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, dirigé par Yasha Orstein. animé et très décidé. C'était le premier mouvement du Quatuor en sol mineur de Claude Debussy, interprété magnifiquement par les musiciens du Quatuor Hermès. D'ailleurs, deux d'entre eux seront avec nous ce jeudi pour nous parler de leur nouveau disque consacré à Schubert, paru chez la Dolce Volta, au programme deux Quatuors à cordes de Schubert, le 13e en la mineur et La jeune fille à la mort, le 14e en ré mineur. Ainsi s'achève le van du jour. Merci à l'équipe, Cécile Bonnet-Desclostres, Xavier Atto et Adrien Roch.
À réécouter sur francemusique.fr.